Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Et aujourd'hui, c'est notre 371e épisode et c'est un entretien avec un auteur passionnant. Il s'appelle Daniel Blancou, il vient de signer Deviens quelqu'un aux éditions Sarbacane, c'était il y a quelques mois. Et on a eu le plaisir de le rencontrer, notamment au micro de Fred Michel, lors des rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens.
Bonjour Daniel Blancou.
Bonjour.
J'ai failli vous appeler Daniel Blanquette.
Ah oui.
Parce que Daniel Blanquette, c'est votre avatar dans la bande dessinée.
Ouais, c'est une sorte de double qui me permet de parler de moi sans vraiment être frontal, quoi.
Sans être frontal, ouais.
Enfin, il y a des gens qui disent que je me livre beaucoup, mais disons, ça me permet de créer de la fiction, d'humour, d'exagérer les choses, de caricaturer, quoi.
Le titre de votre dernière bande dessinée, c'est « Deviens quelqu'un ». J'insiste vraiment sur « Deviens quelqu'un » parce qu'il y a un point d'exclamation. Alors, c'est quelque chose qu'on vous a dit ou vous avez complètement inventé ?
J'ai pas souvenir qu'on me l'ait dit exactement comme ça. C'est là aussi où c'est intéressant de faire de la fiction. Mais l'idée était là quand même, quoi. Mais j'ai pas l'impression que je sois le seul concerné.
Non, d'ailleurs, il y a plein de réflexions que vous faites au début. Là, j'aime beaucoup. Alors, c'est un peu... C'est pas très reluisant pour le métier d'auteur de bande dessinée, mais quand vous êtes dans la classe là, avec l'enseignant qui est lui pour la bande dessinée, ça doit être dans des cases, on doit pas déborder, alors que les enfants ils ont envie d'explorer ce milieu là. Alors je reprends mot à mot, c'est pourquoi vous faites pas un vrai métier ? C'est vrai que la plupart du temps on a l'impression que auteur de bande dessinée c'est pas un métier, voilà, et ça continue à perdurer. Et à un autre moment dans la bande dessinée vous rencontrez un agent immobilier ou
enfin
agent...
c'est pas moi, c'est Blanquette, hein.
Oui, c'est Blanquette, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Oui, vous avez un dédoublement de la personnalité. Et après vous êtes à un festival je crois et vous rencontrez un agent ou une agente immobilier qui dit
qui est la mère de l'élève cité juste avant.
Exactement, et qui dit oh là, j'aurais dû vraiment faire auteur de bande dessinée. Et vous lui dites bah, pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Parce que je voulais réussir ma vie. Et ça, c'est quand même c'est le coup de grâce, là.
Ouais, mais je pense que. Enfin, déjà, souvent, c'est pas vu comme un métier. En fait, c'est. Enfin, je voulais faire une BD aussi, il y a des notions politiques. Et c'est toute la question de qu'est-ce qu'est le travail, la rémunération, enfin. Je ne vais pas me lancer dans le débat, mais c'est
quand
même quelque chose qui
court. C'est encore vu comme un hobby aussi, parfois.
Ouais, et ça l'est parfois pour certaines personnes, et c'est très bien aussi comme ça. Enfin, je pense qu'il y a des gens, c'est bien s'ils font des albums et qu'il n'y a pas la question financière qui se pose. Ben, moi, elle se pose forcément un petit peu. Mais du coup, je ne sais plus, j'ai oublié, il n'y avait pas vraiment de question. Il y avait une remarque.
Non, ce n'était pas une question, c'est une remarque par rapport au statut des auteurs. C'est quelque chose en tout cas qui vous passionne et vous intrigue, parce que dans votre précédente bande dessinée, il était déjà question de ça.
Mais en fait, moi, j'avais pas l'impression de faire une bande dessinée sur le sujet. Moi, je voulais parler pour ce dernier album de la question de la compétition, de l'injonction, par exemple, à devenir quelqu'un, à réussir à sa vie, qu'est-ce que ça veut dire. Et moi, pour en parler, je l'ai fait à travers un auteur de bande dessinée donc, qui est mon double. Au départ, j'avais juste appelé Daniel et puis j'ai décidé de transformer mon nom justement pour bien affirmer que c'était une fiction. Mais moi, je voulais pas parler du métier d'auteur de bande dessinée. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de parler du monde qui m'entoure. Je vois qu'il y a de la compétition partout, même dans une discipline comme la bande dessinée qui devrait être artistique, quoi, mais qui est aussi parfois très commerciale. Voilà.
Donc la bande dessinée, c'est un peu un sport de combat aussi.
Ouais, c'est aussi un peu, c'est un peu un sport de combat, ouais, parfois. Ouais, ouais. Et malheureusement, des fois, on se bat avec nos amis, quoi. Donc c'est un peu idiot, quoi.
Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans un passage, il y a Boulet. Alors comment il s'appelle dans la bande dessinée ?
Canon.
Canon, voilà, Canon. Et Boulet, il raconte qu'il était déjà en compétition au tout début à l'école avec Mathieu Sapin.
Ouais, ils étaient au lycée ensemble. Et ouais, alors les auteurs que j'ai invités, parce que. Comme dans mon histoire, c'est ce personnage qui se découvre qu'il n'est pas invité à une expo des anciens de son école d'art. J'ai invité ceux qui étaient dans ma promo ou une année au-dessus, une année en dessous. Et je savais que Boulet était au lycée avec Mathieu et qu'il y avait cette question-là. Donc j'ai dit, ça m'intéresserait qu'il fasse des planches sur ce sujet, quoi. Mais après, je savais pas ce qu'il allait faire, quoi. Et oui, puis c'est intéressant comme quoi il est en compétition avec Mathieu et qu'il projette plein de choses et que Mathieu, lui, a vécu très différemment, quoi.
Et c'est l'escalade à chaque fois, c'est celui qui en fera le plus, en fait.
Oui, oui. Mais c'est dans les planches, on voit bien que c'est Gilles qui vit les choses comme ça.
Exactement. Ouais.
Voilà. Puis lui aussi, il est habitué à se caricaturer, à accentuer les choses.
Alors, votre bande dessinée, comment elle est née et comment vous l'avez construite? Parce que c'est un vrai millefeuille, une mise en abîme, il y a des histoires dans l'histoire. Racontez-nous.
Alors, dans mon album précédent, je m'étais mis en scène en train de me retrouver, presque malgré moi, à voler le travail d'un jeune prodige et à le plagier. Une BD que tout le monde trouve merveilleuse et qu'on ne voit jamais parce qu'elle est tellement merveilleuse que je ne pouvais pas la dessiner. Et là, j'avais envie de prendre les choses à l'envers, de montrer l'auteur en train de faire ses planches.
C'est un peu une déclinaison de la bande dessinée précédente.
Ouais, quand même, ouais, c'est comme un deuxième volet, quoi, même si elle se passe avant. Et donc j'avais cette idée de... En fait, c'est venu sur l'envie de revenir sur mes années d'études, donc j'avais déjà deux temporalités. Je me suis dit, mon personnage étudiant, on va le voir en train de faire une BD. Je me disais qu'un polar, c'est aussi raconter l'histoire de quelqu'un qui a disparu ou qui est décédé. Enfin, voilà. Donc je me suis dit, si cette personne disparue écrivait elle-même un livre, et le but, parce que c'est quand même de l'humour, c'est de pousser le bouchon toujours plus loin et de perdre le lecteur dans un labyrinthe tout en toujours le ramenant vers la sortie. Et après, du coup, je me suis dit, poussons plus loin. Donc il y a les auteurs qui sont invités, il y a des scènes dans le futur, il y a aussi des strips, trois cases, une série de strips.
Et comment vous avez fait pour vous y retrouver dans tout ce cheminement?
Je suis amateur de labyrinthe, mais en fait j'ai recommencé un nombre incalculable de fois les scènes.
Vous avez fait des storyboards?
Oui, moi je travaille énormément, je fais aucune page définitive tant que le storyboard n'est pas fini. Donc jusqu'à la fin, il y a des scènes, des fois au milieu de scènes existantes, je venais insérer un récit. En fait, le plus dur, c'était vraiment le début. À quel moment on plongeait dans tous ces récits enchâssés? Et la fin, comment on en ressortait, quoi? Et après, il y avait aussi jouer avec ça, parce qu'il y a un moment, je pense qu'il doit y avoir 50 planches, où on part dans un flashback. Pour ceux qui ont lu l'album, là, c'est la scène dans le supermarché.
Ah oui, cette scène, j'allais en parler, elle est géniale, phénoménale.
Voilà, et puis après, je voulais que le lecteur ait complètement oublié qu'on était dans ce supermarché, et puis qu'à un moment, on en revient comme dans nos pensées, quand on est pris dans nos pensées, et puis dans ce qu'on se dit, mais combien de temps...
On était dans un tunnel.
Voilà, on était sous la douche, on ne sait pas. Parce qu'en fait, la partie du cerveau, j'ai appris ça, la partie du cerveau qui gère la créativité et les souvenirs, ce n'est pas la partie du cerveau qui gère le temps. Donc quand on est dans mode créatif, on ne voit pas le temps passer.
Et tout ce cheminement-là, vous l'avez, tout votre scénario, vous l'avez écrit de A à Z depuis le début? Vous l'avez fait, il s'est construit en dessinant, en écrivant?
Alors l'enquête policière, je l'ai écrite comme si elle existait pour elle-même.
Une histoire à part entière.
Ouais, parce que je voulais qu'elle tienne la route, qu'il y ait des vrais rebondissements, des fausses pistes, des témoignages... L'enquêteur apprend des choses et en fait, ah mince, c'était faux. Enfin, voilà, tout ça, je l'ai construit. Donc, j'avais plusieurs temporalités qui étaient construites séparément. Et après, les dialogues, par contre, je les ai écrits au fur et à mesure du storyboard. Donc, le fait de mélanger les récits, ça s'est fait dans le storyboard. Mais j'avais pas. Là, je pouvais pas avoir un scénario. Puis, ça se joue des fois sur une phrase. Pour basculer sur une case, enfin.
Et comment vous avez fait intervenir vos camarades? Vous leur avez laissé complètement le loisir de faire ce qu'ils voulaient? Ils avaient des contraintes?
Alors, il y en a où je voulais je les ai invités à faire certains thèmes. Sylvain Moisirondet, par exemple, je savais qu'il avait gagné le concours Jeune Talent Angoulême. Et comme c'était dans mon thème, donc je lui ai dit, je voudrais bien que tu traites de ça. D'ailleurs, je trouve les planches vraiment émouvantes, en fait, sur les désillusions que ça représente. Boulet, par exemple, je savais. Pascal Campion, par exemple, c'était son parcours, comment il est arrivé aux États-Unis. Et il y en a, ils les ont écrits. Il y en a qui n'ont pas lu l'album avant qu'il soit publié. Il y en a, ils n'étaient pas trop inspirés, donc ils ont lu le storyboard, ils ont fait les planches. Il y en a, ça a été des discussions. Il y en a, j'ai rien refait. Ouais, ça n'a pas été. Il n'y a pas eu de schéma type, en fait. Puis comme c'est tous des gens avec qui je suis resté en contact, des amis. Sauf Blutch, que je ne connaissais pas beaucoup. Mais comme il avait fait une intervention quand j'étais étudiant, moi je me suis dit...
Ah, le dessin, il est génial de Blutch, là.
Voilà. Puis je me suis dit, ce sera la classe quand même d'avoir Blutch.
Et comment vous les avez justement articulés, intégrés à votre récit, ces planches ? C'est aléatoire ou c'est vraiment réfléchi ?
Non. Alors, tout est très réfléchi. Mais il y avait... Je voulais que les premières planches ça soit un peu plus naturel. Donc, on voit mon personnage découvrir sur le net les planches de Lisa Mandel. Au début, je me suis dit, bon, je vais prendre les deux auteurs qui publient sur le net, que ce serait soit Boulet, soit Lisa. Mais comme Boulet, je savais qu'il ferait ça sur Mathieu Sapin. Et Lisa, je voulais que ça s'intègre plus à mon histoire, avec l'histoire d'Expo. C'est comme ça que le personnage découvre qu'il n'est pas invité. Et il y en a, comme je ne savais pas ce qu'ils allaient faire, qu'il fallait quand même que j'avance. Des fois, j'ai transformé mes planches une fois qu'ils m'avaient donné les choses. Donc, ouais, ça s'est fait. Je sais pas comment dire. Enfin, c'est de la création.
Naturellement.
Donc, ouais, voilà.
Donc, ça veut dire que certains vous ont rendu les planches en retard.
Non, parce qu'il y en a, ils bouclaient leur album, ils ont dit je pourrais rien te faire avant telle date. Voilà, donc, bon, très bien, quoi.
Il s'est fait sur quelle temporalité cet album ?
La durée de travail ? Ça s'est fait à peu près sur 1 an et demi, 2 ans. Avec une pause au milieu, à un moment, je calais complètement. J'ai pris 3 mois, j'ai écrit un autre scénario, de mon prochain album d'ailleurs. J'ai repris. Puis il y a eu quand même Covid au milieu de tout ça, qui a pas mal chamboulé mon emploi du temps. Mais en fait, ça ne m'a pas chamboulé sur cet album, mais sur d'autres choses qui ne se sont pas faites. Donc je me suis quand même mis à travailler dessus à une période où je n'avais pas prévu de le faire. C'était un peu compliqué, quoi.
Et justement, vous les alternez aussi les styles graphiques dans cette bande dessinée.
Oui, ouais, parce que ça, c'est toute la question quand on fait un flashback. De la question souvent de la couleur et tout ça. Et moi, je ne voulais pas trop travailler là-dessus. En fait, j'ai joué sur les perspectives. Pour ceux qui dessinent, ça va être un peu technique, mais les scènes dans le présent, c'est une perspective classique, conique. Les scènes de mes années étudiantes, on est plus dans des juxtapositions de premier plan, arrière plan. Un peu comme c'est presque un théâtre en papier découpé, parce que l'école d'art, elle n'est pas réaliste du tout. Et pour le polar, on est plus dans des perspectives axonométriques, des perspectives sans point de fuite. Voilà, donc je voulais que, dans la gestion de l'espace, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus en dessin, on joue sur ces temporalités. Bon, le polar, il est aussi en bichromie, mais c'est d'abord... Moi, j'ai d'abord pensé en termes de représentation de l'espace.
Et le polar, c'est un genre que vous appréciez ?
Pas plus, pas moins que d'autres, quoi.
Non, parce que là, l'histoire, elle tient vraiment la route. Ça mériterait de la publier indépendamment en bande dessinée.
Merci. En fait, non, mais je m'intéresse au scénario, parce que j'enseigne le scénario dans une école bande dessinée à Strasbourg, l'Iconographe. Et ça fait plusieurs années, et du coup j'écris mes cours. Donc quand j'écris, ça m'amène à des réflexions. J'ai été formé aussi à la série télé, donc j'ai fait des analyses aussi moi-même de scénarios. Donc voilà, donc au bout d'un moment, forcément, on se dit j'enseigne, je vais essayer d'appliquer les conseils que je donne. Voilà.
Et vous avez eu des moments de doute quand vous avez... travailler sur cette bande dessinée ?
Oui, notamment parce que je déconseillerais à mes élèves de faire ça. Parce que là, je me suis lancé dans ce défi un peu par jeu de tous ces récits enchâssés. Mais...
C'est presque Oubapien.
Ouais, mais en termes de scénario, c'est sûr que... si on est raisonnable, on n'essaye pas de faire ça, quoi. Mais d'ailleurs, ce personnage de Polar, j'avais déjà des projets d'album Oubapien. Qui se sont pas faits, qui auraient pu se faire à l'association, mais c'était une période où il y avait tous les remous en interne, le départ de Menu, enfin voilà. Puis moi, le temps que les projets soient validés, j'étais passé à d'autres projets. Donc j'avais deux autres projets Oubapien autour de ce personnage de détective. que je ferai peut-être un jour, je vois. Je peux rien en dire parce que c'est le principe d'un truc ou papier, c'est qu'on peut pas, ouais, on peut pas dire quoi.
Et à la fin, il y a un bel hommage aussi de Claude Lapointe.
Ouais. Bah d'ailleurs, je lui ai dédié la bande dessinée. Hein. Donc Claude Lapointe est peu connu des lecteurs de BD, mais c'est quand même. Donc il a fondé la section illustration à Strasbourg. Il a fait de la bande dessinée dans Pilote, mais jamais pour des albums. Il a fait dans Phosphore. Les albums dans ce Phosphore, j'encourage les gens à le voir, c'est d'une virtuosité et à la fois d'une simplicité incroyable. On a l'impression qu'il dessine comme il respire. Enfin, c'est pas une impression, je pense. Et à la fin, oui, donc il s'est dessiné. C'est sûrement son dernier dessin, quoi. Parce qu'il est âgé maintenant. En tout cas, c'est son dernier dessin publié. Donc pour moi, c'est assez émouvant. Et là, au téléphone, il me dit, ouais, ce sera mon dernier dessin. Et lui, presque, il me remerciait de lui donner l'opportunité de faire ce dessin, alors que moi, c'est moi qui étais très honoré, quoi. Enfin, ouais.
On a toujours les deux petits, le petit ange et le petit diable qui vous suivent tout au long de votre récit. Et ça, vous les avez vraiment quand vous écrivez ?
Non, non, non. Non
vous n'avez pas la conscience qui vous dit
non. Non, non, pas ça. J'ai pas ça. Mais la bande dessinée, c'est comment matérialiser et donner à voir ce qui se passe dans nos têtes, bien sûr. Alors.
Mais vous avez quand même une remise en question.
Oui, en fait, la caricature, c'est que ces moments de remise en question par lesquels j'ai pu passer, là ils sont le quotidien du personnage, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est le principe pour moi de l'humour et de traiter un sujet, c'est qu'on va à fond dedans et on ose aussi se dévoiler, caricaturer quoi.
Et alors c'est intéressant, vous avez donné des surnoms à tous vos invités camarades là, ils l'ont bien pris ?
Oui. C'est justement, je voulais que ce soit que des pseudos valorisants, donc
Lisa Modèle,
voilà, Lisa, ça devient c'est Lisa Mandel, ça devient Modèle, Boulet, parce que Boulet, il le dit, c'est un sobriquet que lui donnaient ses grands frères, t'es un boulet et tout, alors que moi c'est Canon,
c'est pas le même sens.
Ouais, c'est pas le même sens. Il y a Campion, c'est Champion et tout ça, voilà.
La Crush aussi.
Et voilà, alors il y a Blutch, c'est Crush, et c'est drôle parce que lui aussi il a joué dans ses BD sur puisqu'il a fait Blotch, évidemment. Alors au début, je voulais l'appeler Touch, mais à l'écrit, ça passait pas du tout. Donc c'est devenu Crush. Voilà.
Et vous nous parliez tout à l'heure de votre prochaine bande dessinée. Vous avez travaillé en parallèle sur le prochain scénario. On peut déjà dévoiler quelques pistes.
Oui, ça reste de l'humour, mais... Non, je préfère pas le dire sur un podcast parce que il y a des gens à qui je veux faire découvrir la BD quand elle sera publiée.
Mais ça restera de l'humour.
Voilà. Ouais. Et historique, voilà.
Historique. Là, vous intéresserez plus aux auteurs, aux autrices de bande dessinée.
Non. On sera dans. C'est historique.
Mais en fait, là, vous parliez du polar tout à l'heure. Là, donc on parle de l'Afrique, de l'exploration de l'Afrique à une certaine époque. Vous êtes un peu aussi un défricheur, un explorateur. Vous observez les autrices et les auteurs de bandes dessinées.
Ah oui, je ne m'étais pas fait la réflexion.
Une mise en abyme.
Oui, je ne m'étais pas fait tellement la réflexion. Mais là, quand on parle auteur et autrice, moi j'avais un problème dans la bande dessinée. Enfin, un problème. La vie fait que. Mais dans tous les auteurs invités, il n'y avait que Lisa. Et tous les autres gars, enfin, tous les autres auteurs, c'est des gars. Et je trouvais que c'était... Bon, enfin voilà, c'était comme ça, parce que j'ai pris des gens avec qui j'ai fait mes études, qui sont devenus auteurs de BD. Et du coup, c'est pour ça aussi que dans le polar, je me suis mis aussi à traiter de la question féministe et tout ça, parce qu'il y avait la question de la compétition. Donc évidemment, la compétition, ben, les femmes sont confrontées à ça. Et donc, j'ai fait mon personnage, ce détective qui il trouve ce combat un peu ridicule, avec sa secrétaire qui est à fond là-dedans. Ça a été motivé aussi par l'ensemble du projet, quoi.
Et vous faites aussi référence à beaucoup de choses. Par exemple, parler de polar dans la bande dessinée, là, il y a aussi l'aspect littéraire. Là, il y a un personnage qui est très littéraire. Vous lui faites corriger, vous auto-corrigez quand vous écrivez la bande dessinée à chaque fois.
Ah oui. Ben en fait, parce que mon récit, c'est quand même deux récits qui se croient. C'est surtout mon personnage aujourd'hui à 40 ans, qu'on découvre un peu aigri par le métier, qui n'a pas percé, et puis qui qui est pas dans le métier tel qu'il l'imaginait quand il était jeune et qui va au fur et à mesure de l'album redécouvrir cette insouciance de jeunesse et un peu se libérer de tout ça. Et en même temps, on le voit lui jeune qui commence avec cette insouciance et comment il la perd. Et il la perd aussi en se mettant à appliquer tous les conseils qu'on lui donne, à prendre toutes les réflexions au pied de la lettre. Voilà, donc je m'amusais, on le voit dessiner les planches et quand il commence à appliquer tous les conseils cumulés qui vont dans tous les sens, ça devient, on voit bien que ça devient n'importe quoi. Enfin, je sais pas si c'est ça la référence, c'est ça.
On revient un peu au début de l'histoire où vous êtes dans la classe et que le maître, l'enseignant dit non, il faut rester dans les cases,
hein,
pas déborder.
Oui, mais en plus, je trouve que des fois aussi dans les sites de critique BD où on a une étoile, deux étoiles, trois étoiles ou des bulles ou des cœurs, enfin bon, tout ce qu'on veut, je comprends qu'il y ait le besoin pour les lecteurs des sites de leur dire ça, on vous le conseille, ça, non, mais des fois ça peut être un peu dans cette logique, quoi.
Le système de notation, c'est souvent injuste.
Ouais. Ben moi, ce que j'apprécie, notamment là où j'enseigne, c'est qu'on ne donne pas de notes. Le directeur estime que chaque élève doit progresser. On lui montre la marche qui est devant lui et il progresse. Et ça, c'est un confort d'enseignement qui est super, quoi. Parce que c'est dans d'autres formations, ça m'est arrivé de donner des notes.
Mais dans la compétition.
Ouais. C'est compliqué. Alors une fois, là, j'ai donné une note. J'ai donné 20 parce que j'estimais que même moi, j'aurais pas fait aussi bien dans le temps imparti. Donc là, ça fait plaisir de donner un 20 parce que c'est dire à l'élève, bon, c'est super, mais ouais, sinon c'est pénible. Et en même temps, des fois, les élèves, ils en ont envie de savoir. C'est compliqué.
Et de se comparer aussi.
Ouais, mais ça, on peut leur dire, voilà, là, ça va pas, là, c'est bien, là, tu dois progresser, ça suffit. Enfin, à mon sens, quoi.
Dans votre bande dessinée, il y a toute une série de gags aussi autour d'un short rouge.
Oui.
Ça sort d'où ?
Il est rouge dans... Je suis pas sûr qu'on dise qu'il est...
Non.
Mais c'est bizarre parce que, oui, peut-être à un moment... Alors ça vient du lycée. Il y a certains gags que j'avais écrits au lycée. Et à un pari avec des copains, c'était que je démarre tous les strips de trois cases par cette même phrase « Il est trop beau ton short ». À une époque d'ailleurs, parce que le lycée, moi j'ai passé mon bac en 95, donc je connaissais même pas Lou Bapo et tout ça. Et en fait, je suis retombé dessus, certains, bon j'ai dû les redessiner et tout ça, mais il y a des gars qui restent de l'époque. J'avais essayé d'en refaire une série il y a quelques années, et donc là je t'ai dit, ben ces gags, personne ne va jamais les lire, j'en ferai jamais rien, je vais pas en faire un album. Donc je les ai glissés là, ouais, c'était l'occasion.
Donc Lou Bapo, c'est quelque chose qui vous titille encore ?
Ouais, bien sûr.
Vous y remettre là, hein, faut y aller.
Mais j'ai fait dans Spirou, j'avais fait quelque chose de Lou Bapien, qui est référencé dans un ouvrage Lou Bapien, je ne sais plus lequel. C'est un copain d'atelier qui faisait un jeu pour Spirou, puis il me dit, je cale, tu n'as pas une idée. Donc j'avais fait un genre de mot fléché, et chaque case, c'est... Donc les mots fléchés, les gags se croisent et chaque bande suggère le mot qu'on doit trouver. Voilà.
Vous pouvez imaginer en faire d'autres plus tard ?
Ouais, bah les histoires avec le détective, j'aimerais bien le faire, mais seulement ça prend un temps fou. Et puis le principe de l'expérimentation, c'est qu'on ne sait pas vers où on va et potentiellement on y passe trop de temps ou on produit quelque chose qui n'est pas intéressant, quoi.
Est-ce que vous lisez encore des livres Lou Bapien ?
Ben, j'en vois pas beaucoup en ce moment. Non, j'en lis pas forcément.
Alors, on va terminer ce bel entretien. Mais donc, vous l'avez dit, le sujet principal, un des sujets principaux de votre bande dessinée, c'est la compétition. Alors, est-ce que pour vous, la compétition, c'est plutôt salutaire ou ça fait plutôt mal ?
Non, pour moi, c'est pas salutaire. Ouais. Ou une certaine vision du perfectionnisme. Ou si on n'est pas au top, enfin il y a que deux places possibles, quoi. Soit on est au top, soit on est au quatrième dessous et on est vu comme de l'excrément, pour rester poli. Alors qu'en fait dans la vie toutes les places sont possibles et puis il n'y a pas d'absolu, quoi. Enfin ma BD, certains vont la trouver super, d'autres vont la trouver nulle. Et pourquoi pas ? Enfin voilà. Moi je vois des livres, je me dis ouais c'est super mais ça me plaît pas, c'est normal. Enfin. Donc,
il faut aussi parfois accepter la critique.
En fait, moi, j'aime pas trop la critique, mais j'accepte que ça plaise pas du tout.
D'avoir un avis, en tout cas.
Ouais, enfin, la critique. Fin...
Pas la critique, dans le sens.
Ouais, oui.
D'avoir un avis.
Moi, j'ai des amis. J'ai des amis, je vois bien que des fois, ils aiment pas trop certains albums. Bah, ça reste mes amis. Enfin, voilà. Je veux dire, j'existe pas que à travers mes albums, même si je m'exprime à travers eux, quoi. Mais bon. Parce que dans l'album aussi, dans les scènes du futur, j'essayais de montrer aussi ce que deviendrait la société dans cette logique hyper compétitive où ils sont tous sourires. Il y a ce robot là qui interviewe les auteurs avec son sourire béat, mais on est dans un monde où il n'y a plus de papier, les vues ont fusionné, il n'y a plus d'éditeurs.
Ça
travaille...
vous fait peur, vous ?
Non, ça ne me fait pas peur, mais...
Par exemple, l'intelligence artificielle, vous en pensez ?
Ah oui, alors ça, c'était drôle, parce que la réplique, je l'ai écrite il y a un an et demi. Enfin, j'ai écrit quasiment tout début. Et puis là, quand ça sort, on est en plein dedans. Pareil, sur, y a une réplique que j'ai écrite sur le fait qu'il n'y aurait plus de papier. Et là, on est en pleine crise du papier et tout.
Vous êtes un visionnaire, Daniel.
Ouais, voilà. Il y a des compagnons qui m'ont dit, tu devrais écrire une histoire où tu deviens hyper riche, tu as plein de succès. Voilà. Mais ouais, c'était un peu vertigineux. Alors moi, ça fait plaisir, c'est la petite satisfaction personnelle. Quand on est rattrapé par le réel, ça fait plaisir. Ouais, voilà.
Et donc l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui vous fait peur ou
Ouais, je pense que ça va faire des dégâts pour le dessin. Parce que moi, je vois déjà des affiches passer où clairement c'est fait par IA et tout ça. Bon, ça prend du boulot à des gens dessinés. Pour la bande dessinée précisément... Pas forcément, mais je me dis, l'apparition de la photo, ça a créé plein de choses en peinture, l'impressionnisme et tout. Est-ce que ça va avoir un impact dans cette même logique ? C'est peut-être à souhaiter. Et puis, à l'IA image et puis à l'IA texte, pour moi, c'est deux choses différentes. Quand c'est apparu, je l'ai un peu testé là, pour tout ce qui est écrit, avant de me décider à ne pas l'utiliser pour des raisons aussi plus éthiques et écologiques et tout ça, mais je voulais quand même me plonger dedans. C'est assez vertigineux. Pas pour lui dire d'écrire des scénarios, mais pour générer des idées. Par exemple, à un moment, j'ai fait écrire l'IA comme je fais écrire un élève. Donc, je n'ai pas déterminé le sujet. J'ai dit, tiens, écris. Elle commence à écrire une scène. Je lui dis, ben, tiens, ça manque de sentiments. Elle me rajoute, et je ne lui dis pas si le personnage est heureux, triste ou quoi. Et ça, c'était assez vertigineux. C'était... Voilà. Mais j'ai pas. On verra bien. Je pense que c'est trop tôt pour dire, quoi. Ouais. Peut-être dans quelques années, on se dira, bah, c'est un outil.
Comme un autre.
Ouais, comme un autre. Ouais, voilà. Je sais pas.
Et d'ailleurs, vous travaillez de quelle manière ? De façon traditionnelle ou numérique ?
Alors, moi, je fais tous mes storyboards de papier. J'attends d'avoir fini la dernière virgule pour faire mes planches. Bah, un auteur de BD en trop, j'ai fini à l'ordinateur. Et cet album, je l'ai dessiné sur papier. Et après, je fais la couleur sur ordinateur, vu qu'il y a ces couleurs très, très franches, très pop. Là. Ouais. Voilà.
Très bien. Mais écoutez, je vous remercie, Daniel Blancou.
Ben, merci, c'était super.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, on espère vous avoir donné envie de lire « Deviens quelqu'un » de Daniel Blancou. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Allez, bonne journée à tous et à toutes.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Thank you.